Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de mettre vos téléphones, comme on dit, sur la position ne pas déranger ou mode avion, enfin ce que vous voulez, de sorte qu'il n'y ait pas de sonnerie intempestive. L'intérêt et l'avantage d'avoir Alain Menck sur scène pour une présentation de son dernier ouvrage, vous me disiez tout à l'heure, peut-être le 40e, à la librairie Mola et à Station Ozone, c'est que on va gagner du temps. On n'a pas besoin de vous présenter parce que vous êtes parfaitement connu et nombre de personnes dans cette salle sont au fait de votre travail et de votre réflexion aussi intellectuelle. Vous venez de publier donc un ouvrage chez Grasset qui s'appelle Voyage au centre du système. Et en fait, page 7, dès la première ligne,
Avec des guillemets à système.
à système, avec des guillemets à système, on reviendra pour savoir quelle est votre définition de système. Dès la première ligne de la première page, vous plantez l'intention de votre ouvrage, je vous cite, La vie m'a donné, depuis 40 ans, l'opportunité de me trouver au carrefour de plusieurs mondes politiques. Alors, je précise parce qu'il n'y a pas de titre à vos chapitres, hein. Politique, c'est le chapitre 1, économique, c'est le chapitre 2, médiatique, c'est le chapitre 4, et intellectuel, c'est le chapitre 3. Vous dites alors que ces quatre mondes constituent ce que les populistes appellent le système, entre guillemets, et c'est ce système que vous vous proposez de nous décrire. Alors, ma première question, c'est pourquoi dire que des quatre mondes, là encore je vous cite, c'est le politique qui a le plus persévéré dans son être, formule spinozienne par excellence, Spinoza, je ne dirais pas avec qui vous avez eu moyen d'y partir, mais enfin Spinoza que vous connaissiez bien, et à l'inverse que l'univers médiatique a été le plus bouleversé. Quand la vie capitalistique et la sphère intellectuelle, dites-vous, se sont contentés de muter sans que leurs fondamentaux aient volé en éclats. Point d'interrogation. Fin de citation. Si je peux me permettre, cette présentation, cette approche fait un peu débat. Comment ne pas dire que la sphère intellectuelle en France a presque complètement disparu dans son mode de fonctionnement d'il y a 50 ans, autrement dit en 68? Ou comment ne pas considérer que l'économie française et internationale a été totalement bouleversée sous le double effet de la mondialisation et de l'avènement de la société technicienne au sens éluvien du terme. Pourquoi est-ce que vous pensez ou vous dites qu'il n'y aurait que la sphère politique et la sphère médiatique qui, surtout la sphère médiatique, qui aurait bougé?
Non, je dis oui, surtout la sphère médiatique. Je crois qu'il n'y a pas, comme disent les enfants, photo. Je veux dire, la sphère médiatique, je veux dire, il y a 40 ans, c'était grosso modo. Comment elle fonctionnait? C'était le règne de la presse écrite, c'était la domination du journal du soir à Paris, qui servait de bible aux présentateurs des journaux télévisés de 20 heures. Et d'ailleurs, on mesurait ce qu'était l'influence du Monde au fait que quand il y avait une grève des ouvriers du livre, ce qui arrivait extrêmement souvent, les salles de rédaction du monde audiovisuel étaient démunies, ne savaient plus comment faire. Bon, c'est simple, au fond. Et le pouvoir d'influence se déclinait aussi par d'autres journaux du matin, comme Libé, et par le magistère intellectuel que le Nouvel Observateur s'était accaparé. La radio n'avait pas changé par rapport à ce qu'elle était au moment de l'apparition des premières radios non étatiques, c'est-à-dire les années 50. C'était un système stable, autoritaire, simple, à l'IA. Bon. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut affirmer de manière sûre qu'il existera encore des journaux de presse écrite, diffusés papier? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut affirmer qu'il y aura des organes d'information de qualité, en tout cas sur le net, en dehors de la voie papier, à l'échelle d'un petit pays comme la France? Personne. Oui, il y aura nécessairement, mais je ne dis pas que c'est réversible, hein, il y a des mesures à prendre. Il y aura nécessairement les quelques très grands acteurs d'information de qualité du monde anglo-saxon. Oui, le New York Times sera là, d'accord. Le Washington Post a failli mourir. Il ne faut jamais oublier que le Washington Post, journal d'influence décisif à Washington, le Washington Post qui a fait le Watergate, était au bord de la faillite si Bezos, le principal actionnaire d'Amazon, ne l'avait racheté et ne lui avait à fond perdu donné de l'argent pour en faire un instrument d'influence politique. Premier élément. Deuxièmement, il y a cette mutation absolue qui est celle des réseaux sociaux, avec le cortège qu'ils entraînent, de mise au même niveau d'informations de qualité, d'informations sans qualité mais pas totalement fausses, et de fake news. Et le tout avec une caisse de résonance dont l'immédiateté crée la violence. C'est un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde médiatique qu'on a connu, tel qu'il diffusait, au fond, toute forme de pensée descendant de haut en bas. Là, c'est un monde qui émet du savoir de bas en haut, mais pas seulement du savoir. Le monde politique, au fond, je veux dire, nous sommes en monarchie absolue depuis 1958. Je veux dire, c'est quoi la France ? C'est une monarchie élective. Cette monarchie élective a été tempérée à partir de quelques réformes, comme l'introduction progressive d'un juge constitutionnel puissant, dont le dernier avatar en termes de renforcement de puissance est la question prioritaire de constitutionnalité qui a été mise en place par la réforme de 2008. Alors, vous allez dire, mais le monde politique, il change. Regardez le coup de balai qu'on a connu. Oui, enfin, des coups de balai pendant cette période, il y en a eu d'autres. Il y a eu 58, il y a eu 81. Je veux dire, il y avait à peu près autant de parlementaires puceaux dans l'Assemblée de 81 qu'il n'y en a dans l'Assemblée de 2017. Il y a une grande différence, en effet. C'est qu'en 58... cette émergence d'une nouvelle génération politique était accompagnée par une expérience politique qu'avait le monde gaulliste, qu'avait été le RPF. Et en 81, tous ces jeunes parlementaires étaient encadrés par un appareil professionnel qui était celui du Parti socialiste.
C'est pas rien. Hein, était aussi élu locaux.
Non, mais bien sûr. Donc, il y avait quand même des tempéraments, et c'est clair que Pierre Joxe, président du groupe socialiste, avait plus de densité que l'actuel président du groupe socialiste. Donc, c'est vrai, le degré de virginité politique est plus grand. Mais enfin, ça se règle assez vite. Hein. Qu'est-ce que c'est le groupe parlementaire En Marche aujourd'hui ? 10% de très bons, c'est une courbe de Gauss, comme la vie. 10% de très bons, 10% de très mauvais, et puis 80% entre moyen bon et moyen pas bon. Bon, pas dire qu'il y a une révolution absolue.
Et la sphère intellectuelle, alors ?
La sphère intellectuelle...
Parce que vous en parlez,
La sphère intellectuelle, quel a été, au fond, les trois événements de ces 40 ans ? La disparition du communisme. Mais mes 40 ans commencent quand je deviens un adulte, disons, dans la vie sociale, à travers la publication du rapport sur l'informatisation qu'on avait fait. Nora Minc, je suis respectueux de l'ordre hiérarchique d'antan.
Oui, c'est parce que vous êtes là.
Mais bon. Le communisme n'avait plus dans le monde intellectuel qu'une ombre portée vacillante. C'est-à-dire, c'est pas la grande période de l'intelligentsia communiste. Moi, j'ai vécu de très près, je fais le portrait de certains d'entre eux, avec des intellectuels comme François Furet, qui étaient d'anciens communistes, mais qui s'étaient libérés du communisme. Le vrai moment de bascule, c'est en fait la fin des années 50, quand une partie de l'intelligentsia communiste décide de s'émanciper. Alors, c'est au moment des blouses blanches en 53. C'est au moment de Budapest en 56. Et c'est au fur et à mesure des années 60 et de la congélation du monde soviétique. Bon, donc, c'était la dernière traînée. Alors après, il y a eu en effet un moment intense, donc, que j'ai vécu de très près à travers une institution qui a joué un vrai rôle dans la vie intellectuelle et qui s'appelait la Fondation Saint-Simon et qui était au fond la victoire des libéraux de centre, de gauche et de droite, c'est-à-dire tous les enfants, toutes les chapelles d'enfants de Tocqueville.
Il faut nous dire, il faut expliquer pourquoi Emmanuel Leroy Ladurie, qui trouve le nom,
non, on cherchait
cette astuce sur Saint-Simon, c'est voilà, trop drôle ça.
On cherchait le nom de cette institution qui avait été une création de 4 personnes. François Furet, Pierre Rosanvallon, Roger Fourou, qui était mon patron à Saint-Gobain, et moi-même, qui était de faire un lieu de syncrétisme entre les intellos, les patrons de médias et quelques grands patrons ouverts à la marche du monde. Et on cherchait un nom, et puis c'était au moment de l'alternance dure de 81, qui était aussi un moment où les gens ne se parlaient pas. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu, pour ceux d'entre nous ici présents qui ont la mémoire de cela, il y a eu un moment quand même de tension dans la société française très très grande. Il y avait ceux qui ont été dépossédés du pouvoir parce qu'ils pensaient en être les détenteurs naturels et qui étaient donc un peu traumatisés, et ceux qui pensaient ne jamais accéder au pouvoir et qui soudain en découvraient les charmes d'abord et les risques ensuite. Donc c'est le roi Ladurie qui a dit bah, on va prendre Saint-Simon, pour certains ce sera le duc et pour les autres ce sera le comte.
Pas mal ça.
Bon, c'était pas mal.
Donc c'était voilà un petit peu l'ambiguïté de la fondation.
C'était l'ambiguïté, hein. C'était ce qu'il avait compris. Donc ce moment libéral, en effet, a été un moment où en face de nous, il y avait au fond qu'une seule école autour d'un seul homme, beaucoup plus puissant.
C'est la deuxième grande armée.
C'était une deuxième armée, c'était le monde de Bourdieu. Moi, je n'aimais pas, à titre personnel, Bourdieu, mais je pense que c'est quelqu'un qui a apporté à la réflexion un concept de très grande force, un peu comme les grands concepts marxistes, c'est-à-dire le capital culturel. Et je pense que le capital culturel est un des instruments d'analyse de la société contemporaine qui explique beaucoup des problèmes actuels que nous vivons, c'est-à-dire le blocage de l'ascenseur social. Et je pense que plus que jamais, c'est là où j'ai une grande divergence avec Piketty et son analyse des inégalités. Je pense que les inégalités culturelles se sont accrues au moins autant que les inégalités économiques et qu'elles ont un effet beaucoup plus déterminant sur le fonctionnement de la société. Dans la société française, il vaut mieux être fils de prof au Collège de France que fils d'industriel très riche. Et évidemment, il vaut mieux être fils d'industriel très riche que fils d'employé, c'est certain. Mais le capital culturel est déterminant. Et donc,
Je vous coupe, Alain Minc, pardon, vous dites, ce n'était pas rien d'inventer la notion de capital culturel et, à l'instar de Marx, avec le capital financier, d'en faire l'instrument d'une analyse de la société. Si hostile à Bourdieu que nous étions, il nous fallait reconnaître qu'il avait vu juste sur ce plan. Y avait-il meilleur exemple de capital culturel que Saint-Simon ? Bourdieu ne se privait pas de ricaner.
Il avait raison. Enfin, il était odieux, hein, Bourdieu. C'était un sale type. Mais il avait ça, puis il avait bâti un vrai système de pouvoir. Le pauvre, son vis-à-vis dans les institutions académiques, c'était Alain Touraine. Mais Alain Touraine, c'est un brave homme, sympathique, ouvert à autrui, incapable de bâtir des systèmes de pouvoir, d'avoir des fantassins, des officiers, des généraux pour répandre sa propre influence. Donc c'était puissant, Bourdieu. Je veux dire, et on l'a bien vu en 95. Je veux dire, au fond, Bourdieu, en 95, pèse plus sur les événements que Sartre en 68. Il avait incarné, disons, cette dimension. Alors, c'était un affrontement. Et puis, il s'est passé une troisième voie, un troisième moment, dont on vit aujourd'hui à l'évidence. J'espère que c'est l'apogée, parce que si c'est l'apogée, ça voudra dire qu'il y a le déclin, qui est que la pensée dominante n'est plus la nôtre. Moi, j'ai été qualifié de pape de la pensée unique. Terminé. Je me sens un dissident. La pensée unique, c'est la pensée des Zemmour, des Onfray et de tous ceux qui gravitent autour d'eux. C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder les ventes de bouquins. Mais j'ai vendu des centaines de milliers de bouquins. Aujourd'hui, ce sont eux qui vendent des centaines de milliers de bouquins. Donc, ils sont l'expression intellectuelle de l'affrontement qui va structurer notre vie publique, je pense, pendant un bout de temps, mais que nous ne perdrons pas. Qui est l'affrontement avec le monde populiste.
Alors, j'y viens parce que c'était la question que je voulais vous poser avant qu'on reparte sur les différentes sphères. Page 56, vous n'allez pas m'en vouloir, mais on a le sentiment qu'Alain Minc est devenu sage, à moins que
ça c'est là, non, vous êtes très tôt. Vous êtes très vexant là.
À moins qu'il soit devenu modeste, je suis encore plus vexant. Hein, mais,
non.
Alors, je vous cite, des 40 ans écoulés, dites-vous, je ne tire qu'une leçon. Il n'existe ni perspective linéaire, ni certitude, ni pronostic triomphant. Je n'imaginais pas connaître la décomposition de l'Union soviétique, la mort du communisme en Occident, l'affaiblissement de la social-démocratie. Pourquoi croirais-je à la victoire inéluctable du populisme alors qu'il est tellement moins articulé que ne l'était le marxisme triomphant ? Où les cœurs, c'est un ennemi à notre portée. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la force du populisme, ça serait un paradoxe, ce serait pas justement qu'il est moins bien articulé que le marxisme, donc quelque part plus souple, plus réactif, plus démagogique, plus adaptable, en quelque sorte plus ductile et plus résilient, d'où sa dangerosité bien plus grande que les méga idéologies comme le marxisme, par exemple.
Ce que vous dites est très subtil, mais à mon avis très contestable, parce que c'est oublier ce qu'était quand même la violence de l'affrontement avec le communisme. Je veux dire, le communisme, il était adossé à un empire monde, deux empires mondes même, après la scission entre l'Union soviétique et la Chine. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose que d'être adossé à Monsieur Salvini. Parce que le seul vrai populiste au pouvoir aujourd'hui, c'est Monsieur Salvini. Donc ça, je pense que vous réduisez... En effet, le communisme s'est volatilisé d'une manière tellement surprenante, tellement rapide, comme une espèce de nuage, qu'on oublie ce qu'il était avant. Pourquoi vous dites le populisme est ductile ? C'est vrai. D'abord, il a deux formes qui se rejoignent en partie. Donc une forme née à l'extrême droite et une forme née à l'extrême gauche. Mais elles se sont toujours rejointes dans l'histoire.
Oui, vous en parlez
dans les années 30. Non, mais dans les années 30, il y a un populisme de gauche, d'extrême gauche, les néo-socialistes, qui n'est pas un mot gratuit dans la ville d'Adrien Marquet.
Tout à fait.
Les néo-socialistes basculent après et deviennent un des corps constituants de Vichy.
Et Doriot. Pour le Parti communiste.
Et Doriot. Moi, j'ai une relation, mon ami Marcel Desvernes a vu l'objet, j'ai une relation très particulière aux néo-socialistes et à Adrien Marquet. Mes parents, juifs polonais communistes, sont arrivés à Bordeaux en 1931. Mon père a été un immigré légal et ma mère une immigrée clandestine. J'ai dans mon bureau la photocopie de la lettre adressée par Camille Chautant, président du Conseil, 33, à Adrien Marquet, maire de Bordeaux, qui lui demandait, comme une intervention classique, la régularisation de cette immigrée clandestine qui était ma mère. Adrien Marquet, 33, il veut faire régulariser des juifs immigrés. Octobre 40, le même Adrien Marquet, ministre de l'Intérieur de Pétain, signe le statut des Juifs.
Et ne bougera pas le petit doigt pour sauver son premier adjoint, Ben Zakhar, qui va mourir à Auschwitz à 82 ans.
Donc, sur la capacité, en effet, de passer du populisme... Il n'était pas encore populiste de gauche, en 33. Il était en voie, il était en route. ça a toujours existé. Et en effet, ça existe aujourd'hui avec... Cet exemple, qui est l'exemple italien, Italie qui a toujours été un laboratoire politique de l'Europe. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Mais à mon avis, l'Italie, laboratoire politique de l'Europe, va nous donner l'occasion de voir le vrai antidote au populisme, c'est-à-dire l'incapacité de ces gens-là de gouverner. C'est tout. Et qu'est-ce qui est en train de se passer en Italie? Ça prendra du temps. Un réveil de la gauche classique. Il y aura un réveil de la droite modérée parce que nos sociétés sont trop compliquées pour que la bêtise à l'état pur au pouvoir n'ait pas de conséquences. Alors, l'alliance de Salvini et de Di Maio, c'est l'alliance d'un crypto-fasciste et d'un clown. Donc, dans ce cas-là, c'est évidemment le crypto-fasciste qui gagne. Mais qu'est-ce qui se passe ? Normalement, un crypto-fasciste fait prévaloir le politique sur l'économique et se fout de mettre l'économie en l'air pour aller jusqu'au bout de ses desseins politiques, c'est-à-dire éventuellement changer la Constitution et de fabriquer une démocratie libérale. Sauf que M. Salvini, il ne peut pas aller trop loin non plus, parce qu'il a eu parmi ses électeurs les industriels du nord de l'Italie, classe extrêmement puissante. N'oubliez jamais qu'en Italie, la part de l'industrie dans le PIB est presque le double de la part de l'industrie française dans le PIB français, 10 contre 17%. Et donc, il bute sur un non possumus, c'est qu'il y a des choses, des bêtises, que s'il les fait, il tombe. Dans un univers où, Dieu merci, nous sommes pris dans les règles que nous impose l'euro et dont on ne peut pas sortir. Car la vraie leçon du Brexit, c'est que ça enlève même aux populistes l'envie de sortir de l'Union européenne. Or, sortir de l'Union européenne, c'est 100 fois plus facile que de sortir de l'euro. Bon. Donc, je pense que les populistes, quand ils s'approchent vraiment du pouvoir, ou mutent, ce qu'on voit par exemple dans les pays scandinaves. Au fond, je veux dire, les populistes des pays scandinaves, ils sont antipathiques, mais ils sont rentrés à l'intérieur de ce que j'appelais autrefois le cercle de la raison, expression qui m'a été beaucoup reprochée.
Dont vous reparlez,
ou ils vont buter sur la réalité qui est plus forte qu'eux, et donc ils seront amenés à subir de vraies défaites. Donc je crois que c'est quand même un combat beaucoup plus simple. Ils n'ont pas de système alternatif. C'est-à-dire, le communisme offrait à tort, peut-être, mais au moins avec une vraie force, l'illusion d'un système alternatif. Qu'est-ce que c'est que le système alternatif des populistes? D'ailleurs, je veux dire, l'effondrement dans le débat présidentiel de Madame Le Pen était très intéressant. Je veux dire, c'est une femme politique expérimentée, elle connaît tous les trucs du métier, néanmoins confrontée à un discours de simple réalité, elle ne tient pas. Donc ce combat n'est pas perdu, on va le gagner.
Alors, dans votre livre, tout le premier chapitre, c'est à la fois la présentation de la sphère politique, et puis il y a aussi une galerie de portraits tout à fait savoureuse, cette galerie. Alors, on vous savait doté de beaucoup de talent, mais pas encore de celui d'endocrinologue. Alors, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vous dites, Pacès sur Sarkozy, mais pourquoi est-il si bon dans les crises et parfois si maladroit par temps calme? Et vous donnez une explication qui est celle de l'adrénaline. Expliquez-nous, là.
Écoutez, je pense que Nicolas Sarkozy, enfin, ce sont des métaphores, est quelqu'un qui a trop d'adrénaline. Donc, quand vous avez trop d'adrénaline et que tout va bien, vous donnez des coups de pied comme ça dans la table. Et beaucoup de ces faux pas, c'était des coups de pied dans la table. Quand vous avez affaire à une crise majeure, l'intensité du moment fait que vous êtes au bon niveau d'adrénaline.
Vous n'êtes bien que dans les sommets de...
Ah non, mais Sarko, c'est un type qui est très bon dans les crises et très mauvais dans le quotidien. Mais ce chapitre politique commence par quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est que je dis, qu'est-ce que j'ai connu comme situation où je me suis dit qu'une décision politique pouvait mettre en cause l'avenir de mes enfants? Et je dit que je n'ai connu que deux situations de ce type.
Expliquez-nous les, parce qu'elles sont très intéressantes.
C'est-à-dire deux situations où le fait de ne pas jouer intelligemment les règles du monde pouvait faire de nous un pays vraiment en mauvais état.
La première situation, et 2008,
c'est 83. C'est-à-dire quand François Mitterrand hésite entre le respect des règles européennes, à l'époque c'était le système monétaire européen, ou ce que les visiteurs du soir de l'époque, expression créée à cette occasion pour une personne qui était Jean Ribou, le frère d'Antoine Ribou, lui proposait ce que nous, les adversaires de ça, nous appelions la voix albanaise. Pas besoin de décrire, on devine ce que pouvait être la voix albanaise. Et je rends hommage à l'homme qui a arrêté ça, qui est Pierre Mauroy. Je veux dire, c'est Pierre Mauroy qui a ramené Mitterrand à la raison en refusant d'être un courtisan, puisque Mitterrand en particulier, moi je connaissais bien Mauroy, j'ai pour lui un respect immense. Mais Mitterrand propose à Mauroy d'être Premier ministre et sortir du SME. Et Mauroy a ce mot génial et lui dit non, c'est pas possible, je ne sais pas conduire sur le verglas. Bon. Et Mitterrand finalement finit par accepter la politique.
Alors que d'autres, d'autres poussent à la roue, comme Fabius, Pérégovoy.
Après, ils sont tous venus à récipiscence. Bérégovoy est devenu un formidable ministre des Finances.
Avec un directeur de cabinet dont vous parlez, Jean-Charles Maury.
Voilà. Fabius était venu à récipiscence avant d'être pris par ses mauvais génies, avec son vote de pur opportunisme et décisif au référendum de 2005. Nous sommes très fâchés avec Laurent Fabius parce que pendant la campagne de 2005, j'ai dit « c'est l'acte politique honteux, conscient, le plus grave depuis mai 40 ». Évidemment, on n'est pas copains après ça. Mais j'ai dit conscient. Des conneries pires, il y en a eu. Mais lui, c'était cynique. Mais peu importe. C'est 83. Deuxièmement, après, c'est 2008. Je veux dire, je ne suis pas sûr. Il fallait probablement être très près du cœur du système pour mesurer que nous sommes passés à un millimètre d'une catastrophe aux conséquences absolument inimaginables et d'une crise peut-être plus grave que celle de 1930. Il y a eu un week-end en octobre 2008, il faut reprendre, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, un dimanche, Sarkozy, en tant que président du Conseil européen, réunit à l'Élysée Merkel, Berlusconi et le Premier ministre espagnol. Et rien n'en sort. Merkel dit « c'est pas grave, bon. ». Alors Merkel, elle prend son avion et on la prévient dans l'avion du retour sur Berlin que la banque hypothécaire de Berlin vient de faire faillite et qu'elle doit injecter 50 milliards. Là, pour une scientifique comme elle, les fèves commençaient à parler. Le mardi, les Anglais annoncent un plan de sauvetage des banques qui est génial d'empirisme. Les Anglais, à l'époque, étaient empiriques. Rien à voir avec les semaines que nous vivons actuellement. Puisque les États avaient donné à leurs banques leur garantie. C'est-à-dire, avaient dit, vous ne pouvez pas faire faillite. C'était une garantie illusoire, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'assumer, mais ils l'avaient quand même donnée. Mais les banques ne se prêtaient pas entre elles. C'est-à-dire qu'une banque sous garantie d'État ne prêtait pas à une autre banque sous garantie d'État. Ça veut dire qu'elle ne croyait pas pour sa collègue à la garantie dont elle-même bénéficiait. Les Anglais ont inventé ce truc incroyable que Gordon Brown a annoncé, en même temps qu'il nationalisait les trois quarts des banques, les deux tiers, qui était « je garantis aussi les prêts ». Donc je garantis les prêts entre deux banques que j'ai garanties. Ce qui montrait à quel point on était dans un univers délirant rationnellement. Mais l'angoisse montait à un point extrêmement fort, et le vendredi, il y avait des retraits dans les banques. Et le gouvernement avait demandé aux organes de presse et aux médias audiovisuels de ne pas en parler. Et les organes de presse, ça ne se passerait pas aujourd'hui. Le BFM d'aujourd'hui n'aurait pas la conscience civique du TF1 de l'époque, n'a pas montré les fils qui commençaient à apparaître devant les banques à Paris, pas encore en province. Et il y a une réunion le dimanche à l'Élysée de tous les chefs de gouvernement de la zone euro élargis à Gordon Brown. Idée formidable, parce que c'est lui qui était en train de trouver la solution. Et qui débouche sur un plan présenté le soir, je me souviendrai toujours, par Sarko avec, en tant que président du Conseil européen, avec à sa droite le président de la Commission complètement déliquescent qui était Barroso, et puis Juncker, président de l'Eurogroupe, et Trichet, président de la Banque centrale. Et je me souviens, il m'appelle...
Dans le livre, on a l'impression qu'ils sortent du tambour de la... appelle.
Il m'appelle en sortant, comme il faisait souvent, il me dit « comment t'as trouvé la présentation ?» Je savais les mesures avant. Et je dis « vous étiez vraiment comme des joueurs qui faisaient tapis au poker et qui se disait que c'était les derniers jetons, quoi.
Et on le saura à 23h.
Et on le saura à 23h, parce qu'à 23h, la bourse de Sydney, faut bien voir que c'est ça, le monde. C'est-à-dire, c'est la bourse de Sydney qui a donné le « là » pour savoir si le monde entier acceptait le plan européen. Pendant ce temps-là, comme Sarko s'en était aperçu en allant la semaine d'après à Camp David, George Bush et son secrétaire au Trésor étaient quasi dépressifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pu leur imposer des trucs. Et la bourse de Sydney applaudit, au fond, le plan européen concocté à l'initiative de Sarko. Eh bien, moi, je veux dire, en dehors de la sympathie et de l'affection que j'ai pour Nicolas Sarkozy, je souhaite que ce soit ce que l'histoire garde de lui comme souvenir. C'est rare de dire d'un type, pendant une semaine, il a probablement tenu le destin du monde occidental dans ses mains. C'est rarissime. Si ça se passait mal, si la bourse de Sydney s'effondrait, on ne pouvait pas arrêter les demandes de retrait bancaire. Il fallait à ce moment-là refuser les retraits bancaires. Il fallait probablement avoir un problème de maintien de l'ordre parce que les agences auraient été prises d'assaut. Tellement l'angoisse était grande, enfin on ne mesure pas ce que c'était. Et à ce moment-là, on allait dans une espèce d'enchaînement économique dont on ne voyait pas comment on l'aurait arrêté parce que les États auraient perdu toute crédibilité. Voilà, ça c'est de la grande politique. C'est le moment où quand les gens disent la politique, ça sert à rien. Oui, quand tout va bien, la politique ne change rien. Quand tout va mal, la politique est quand même l'ultime maître des horloges.
On termine sur Sarkozy, puisque je vous cite encore. Hein. Vous dites « étonnant personnage que Sarkozy, grand pendant les crises, parfois immature dans la vie courante, superbement intelligent, avec une culture lacunaire, capable d'intuitions fulgurantes et de faux pas stupéfiants. Ce n'était ni un personnage banal, ni un président normal. L'aimant bien, je ne lui souhaite qu'une chose. » Une histoire qui saura trier et se souvenir de 2008. Alors, vous vous dites, mon snobisme consiste à dire au chef de l'État, tu as tort, tu as tort, tu as tort. Trois fois. Hein, ça, c'est page 20. Et vous dites quelque part, c'est votre façon, en quelque sorte, d'exister comme conseiller du prince.
Non, non, je raconte une anecdote. Oui. À ce propos, qui est, après son élection, Nicolas Sarkozy, le lendemain, dans son bureau, me dit « qu'est-ce que tu prends ?» Je lui dis « rien ». Un homme politique auquel on dit rien, il n'a pas l'habitude. Il me dit « pourquoi tu dis rien ?» À la Sarko, quoi. Mmh, mmh. Et je lui dis « écoute, dans la vie, chacun a son snobisme. Moi, mon snobisme, c'est de pouvoir dire au type qui occupe le bureau de général, du général de Gaulle « t'es con ». Et pour te dire « t'es con », il ne faut pas être ton employé. Donc, rien. Et ça l'avait beaucoup marqué, parce que je me souviens que le soir de son mariage avec Carla, il y avait une petite réception de copains à la lanterne, et il a dit à Carla, il a raconté à Carla cet épisode en disant « tu te rends compte ce qu'il m'a répondu ?» Et là, elle a eu cette femme, une phrase intelligente, « s'il a raison, j'ai eu tort de t'épouser.
» C'est pas dans le livre, ça. C'est pas dans le livre.
Non, parce que je veux pas... Elle, c'est pas un personnage public, bon. Mais c'était quand même une jolie phrase très intelligente.
Alors, votre livre, c'est aussi... Il y a des pages qui sont véritablement une défense illustration des élus, hein, et en particulier de ce que vous appelez une immense armée d'élus en France pour donner une vibration altruiste à notre vie collective. La question que je voulais poser, c'est comment expliquez-vous qu'il existe encore dans ce pays ce que vous appelez un tréfonds missionnaire qui font que des gens s'engagent? Parce que c'est pas dans l'air du temps.
Non, mais écoutez, je pense que la France a des syndicats faibles. C'est-à-dire le nombre d'adhérents est faible. Des partis politiques, avant même le traumatisme de 2017, qui ne sont que des syndicats d'élus. Dire le Parti socialiste, une fois enlevé les faux membres, un nombre incalculable de ses membres sont élus de quelque chose. Mmh. Les syndicats, ce sont des armées de délégués syndicaux. Donc ce sont en fait, en réalité, des associations corporatistes. Bon. Où est la vibration démocratique? C'est pour ça que je suis très hostile à la disparition des communes. Ben, vous avez 36 000 communes. Si vous prenez 15 élus... comme taille moyenne d'un conseil municipal, et c'est plus que ça, mais peu importe.
Non, c'est plutôt moins que ça.
Non, mais quand même.
C'est entre 9 et 15.
OK, on en prend 12, si vous voulez. Bon, bah 36 000 par 12, ça fait 450 000.
Mais c'est ça, oui.
Ça fait 450 000 personnes qui, en dehors de ceux qui occupent des postes, qui participent d'une dynamique politique, au fond, n'ont envie que de se donner un relatif plaisir et quand même servir les autres. Et je pense que c'est un terreau démocratique formidable. Et j'ose espérer que ce que l'on lit maintenant, qu'il y a que la moitié des maires ne veulent pas se représenter, est en fait une espèce d'énervement.
Chaque mandat, c'est plutôt
ça. Et donc, mais ça, si on pense ça, alors on refuse l'idée technocratique que les Allemands ont 6 000 communes et que nous, il faut en avoir 10 000. Il faut préserver ce tissu-là. Et de manière générale, si vous voulez, je dis ce que je pense profondément. Je pense que la classe politique française est honnête, dévouée et de très bon niveau intellectuel. C'est-à-dire que c'est pas facile de tenir les deux maillons de la chaîne entre la réalité qu'on ressent dans les permanences ou sur les marchés et de comprendre aussi les grands enjeux du monde et la globalisation. Je veux dire, c'est quand même un compas très, très, très large. Et dans l'ensemble, je trouve que les politiques français le font très bien. Et quand vous les comparez à leurs pairs étrangers, on peut être plutôt fier de notre classe politique. Avec un point ultime, alors, qui est presque caricatural, qui est quand même la situation actuelle, où le numéro 1 a une bonne culture philosophique, et le numéro 2 aime bouquiner au point d'écrire un bouquin sur les bouquins qu'il lit. Mmh. Bon, c'est pas, y a pas beaucoup de pays au monde où ça apparaîtrait. Donc, c'est une classe respectable. Je pense en plus que le système français a établi les règles en matière de limitation du poids de l'argent qui sont les plus exigeantes de l'Occident, avec les plafonds aux dépenses électorales, les risques de sanctions, en tout cas pour les législatives. Je veux dire, le pauvre Jacques Lang, il a quand même l'immense Jacques Lang, quand même vrai homme politique, il a perdu son mandat à Blois, il a été inéligible pendant un an parce qu'il avait dépassé le plafond de, je sais pas quoi, quelques milliers d'euros. C'était des francs à l'époque. Voilà, donc en effet, j'ai beaucoup d'estime pour la classe politique.
Et vous dites que ça deviendra sans doute de plus en plus compliqué d'attirer des générations de jeunes aussi à s'impliquer dans l'engagement politique. Vous proposez toute une série de mesures dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas démagogiques, quoi.
Non, mais je pense plusieurs choses. Moi, quand je reçois un jeune qui veut se lancer en politique, je me sens penaud de lui dire « Est-ce que votre famille a du patrimoine ?» Mmh. Mais il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, avec la suppression du cumul des mandats, je veux dire, quel est le destin d'un type qui se lance dans la vie politique ? D'être maire d'une ville moyenne, 5000 euros. En plus, c'était bon, être député, 7000. Quoi. Maintenant, en plus qu'on a remis un peu d'ordre dans tout ça. Je veux dire, ce sont des gens souvent diplômés qui, sans vouloir devenir des grandes divas du monde capitaliste, auraient une vie matérielle beaucoup plus aisée dans le privé. Je veux dire, donc il faut. Je pense que le métier politique n'est pas payé. C'est pas normal qu'un homme politique gagne ce que gagne un contrôleur de gestion débutant au bureau Veritas. Alors, évidemment, sur les réseaux sociaux, ça ne me vaut pas que des amis, cette affirmation.
Alors, vous disiez, quand je reçois un jeune qui vient me voir pour me parler éventuellement de son futur ou de son ambition, vous lui posez la question... est-ce que votre famille a du patrimoine? Et puis, à un certain qui est venu vous voir aussi, vous lui posez la question « Que serez-vous dans 30 ans ?» Il s'appelle Emmanuel Macron, celui-là. Il est inspecteur, jeune inspecteur des finances. Et vous répond « Je veux être président de la République. » Et vous lui rétorquez « Vous commencez bien mal notre conversation. »
Non, c'est vrai. C'est-à-dire...
Page 51. Hein.
Macron me faisait la visite du jeune inspecteur des finances au vieil inspecteur des finances. Alors, dans ce club anglais qu'est l'inspection, c'est un peu un rituel comme la visite du jeune écrivain chez le vieil écrivain. Voilà, c'est, vous avez tous lu Mauriac chez Barrès.
Exactement, bon, Mauriac chez Barrès.
Je suis gentil, parce que il vaut mieux être Mauriac que Barrès. Hein. Donc, enfin, c'est plutôt sympa pour...
Vous comparez pour quand même à Barrès. Hein.
Non, mais la position d'ascendant, je veux dire. Bon, et en effet, donc je leur pose toujours cette question, vous serez quoi dans 30 ans? Et ce jeune mec, il avait 24 ans, me dit, je serai président de la République. Donc je lui réponds, vous commencez bien mal. Bon, et puis après, j'ai compris, parce qu'on a noué une relation forte pendant toutes ces années, j'ai compris qu'il voulait vraiment faire de la politique. Alors c'est là que je lui ai conseillé de devenir banquier d'affaires, au nom du même raisonnement. Je lui ai dit, tu prends dans ce cas-là le seul métier qui te permettra d'accumuler un patrimoine qui te donnera ta liberté pour faire de la politique. Le problème, c'est qu'il est allé tellement vite qu'il n'a pas eu le temps d'accumuler le patrimoine. Enfin, il se débrouillera après.
Enfin, il va tellement vite que vous lui proposez, vous lui suggérez de faire l'impasse sur 2017 au profit de 2022.
Non, au profit de 2027. Je lui dis devant sa femme, ce que je dis, on respecte sous les auspices d'une institution comme Mola, le principe de discrétion. Je lui dis devant sa femme, moi, mes votes sont fixés jusqu'en 2027. 2017, vous devinez à quel moment ça se passait, Juppé. 2022, Valls. Et toi, si mon Alzheimer n'est pas excessif, 2027. Alors, il me répond, je vais essayer d'aller plus vite pour t'éviter le problème. » Et là, sa femme a cette phrase que je vous suggère de méditer, car elle pourra expliquer des choses en 2022. Le problème en 2027, elle se tourne vers moi, c'est pas ton Alzheimer, regarde-moi, c'est ma gueule.
Enfin, bien, non, dans, dans.
C'est pour ça, ayez ça en tête. La candidature pour moi d'Emmanuel Macron en 2022 est probable, mais n'est pas un fait acquis.
Parce que dans le livre, d'ailleurs, vous dites « J'ai essayé en vain de convaincre l'intéressé de faire une croix sur 2017, de viser 2022 et de profiter de ces 5 ans pour mener, fût-ce en accéléré, un parcours classique. » C'est lui qui avait raison. Sans passé électoral et sans ancrage local, il avait compris que le système était à bout de souffle et qu'il était protégé par des murailles de carton-pâte et qu'une voie s'ouvrait pour celui qui mêlerait l'audace et le talent. Quant à la visite de Mauriac chez Barrès, dans le livre, c'est Barrès chez Renan. Donc là, vous devenez Renan, hein, en quelque sorte. Hein. C'est mieux, quand même. Hein. Non, je vous rassure.
Hein. Ça m'a valu, dans les mémoires orales de François Mitterrand, qui m'aimait pas cette phrase. Un type qui a lu tout Renan n'est quand même pas fondamentalement mauvais. Bon, mais oui, je pensais ça. Bon, cela dit, ce que j'avais évidemment ignoré, c'est qu'il avait signé un contrat synalagmatique avec la Providence. Parce que, je veux dire, c'est quand
alors,
même...
Oui, vous le dites, mais en même temps, vous dites, c'est très intéressant, vous dites page 52, vous expliquez qu'il y a deux présidents de la République qui ont été habités, De Gaulle et Macron, et les autres étaient des ambitieux. Quelle différence vous faites entre les habités et les ambitieux?
Mais il faut quand même jamais oublier le contrat avec la Providence. Hein. Mmh. Juppé gagne la primaire, pas de Macron. Mmh. Hollande ne se retire pas de Macron. Mmh. Valls gagne la primaire de gauche, pas de Macron. Il manque les 5% de gauche. François Fillon ne se prend pas les pieds dans les revers de son pantalon, pas de Macron. Et surtout, François Bayrou n'a pas un éclair de lucidité et veut aller pour la 4e fois, pas de Macron. Donc ça s'appelle quand même la Providence. Hein. Ça, il faut pas, mais il faut pas l'oublier. Non, alors quelle est la différence entre ambitieux et habité? Je pense, si vous voulez, que Macron, quand il se lance en politique, hein, c'est sa femme qui a employé ce mot avec moi, un petit côté Jeanne d'Arc, du style, je sais ce que je veux faire pour régler les problèmes de ce pays.
D'où la visite à Orléans?
Non. Oui, on peut se poser la question parce que elle m'avait fait la remarque sur Jeanne d'Arc quelques semaines avant la visite à Orléans. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Donc ça, c'est le type qui dit je sais quoi faire pour résoudre les problèmes de ce pays. C'est quelqu'un qui est habité. Bon, alors évidemment, le grand modèle de l'habité, voilà, avec une dimension d'une toute autre nature, c'est évidemment De Gaulle. Les autres sont des gens ambitieux. Pompidou, la vie l'a rendu. L'a amené presque là où il était, sauf qu'il l'a fait. Je veux dire, Giscard, c'est un ambitieux.
Alors, Mitterrand, c'est pas un habité.
Ah non. Non, non. Mitterrand, c'est quelqu'un d'un talent immense qui pousse le cynisme jusqu'à en être un des principaux beaux-arts. Mais, je veux dire, la vision, vous demandez... Enfin, Mitterrand, quand il arrive en 81, vous lui dites, quelle est la France que vous voulez? Il sait pas trop. Voilà, bon, il nationalise parce qu'il fallait ça pour avoir le soutien des communistes. Mitterrand, il a des convictions négatives, mais il n'a pas de convictions positives. Convictions négatives, il est authentiquement anticommuniste, il est authentiquement pro-américain, et il n'a qu'une seule vraie, disons, oui, ambition, enfin, adhésion viscérale, il est européen. Oui. Mais c'est pas être habité à avoir des convictions négatives. C'est, je veux pas des communistes, donc je suis dans le camp américain et il faut faire l'Europe. Non. Bon. Les autres, non. Ils sont pas habités.
Alors, on arrive à la...
Il vaut peut-être mieux être ambitieux qu'habité. Hein.
Pour la France, vous voulez dire?
Non, c'est plus facile. Parce que quand vous êtes ambitieux, c'est plus facile de renier vos projets que quand vous êtes habité. Ouais. Ça coûte plus psychologiquement.
On dit que le général de Gaulle était soumis à des dépressions profondes.
Hein, oui, ça, oui. Mais ça, comme Churchill. Hein.
Et comme Macron.
Non.
Non.
Non. Ne croyez pas ce que vous lisez sur les réseaux sociaux.
Parce qu'on parlait des deux habités, de Gaulle et Macron.
Non. C'est pas le même âge non plus. Hein.
On va arriver à la sphère intellectuelle, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Vous commencez le chapitre sur la sphère intellectuelle à propos de Sartre et à l'occasion de l'évocation de ses obsèques, donc en avril 80. Vous dites que vous êtes ému alors que vous êtes très éloigné de la mouvance sartrienne. Bon, ça, c'est pas une découverte. Non. Et vous écrivez « Nul n'échappait à son rayonnement, à ses oukases, à ses excommunications, à ses contre-vérités, à ses fulgurances, à sa manière d'être, à la fascination pour son couple hors norme avec Beauvoir. » Et j'aurais eu tendance à vous dire, un a résisté à Sartre, et il a fini par l'emporter. Il s'appelle Raymond Aron, et dont les gauchistes allaient jusqu'à dire qu'il fallait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Comment expliquez-vous cette fascination pour Sartre ?
Je pense qu'à la fascination pour Sartre, Aron ne résistait pas. Il a bâti sa vie dans cette espèce d'antithèse avec Sartre. Et Aron, qui était un honnête homme, a d'ailleurs dit très clairement dans ses mémoires qu'il considérait qu'intellectuellement, Sartre lui était, et de très loin, supérieur. Donc, je veux dire, il a résisté idéologiquement. Mmh. Mais c'est vrai, il faut penser à ce qu'était cette fascination, et vous avez raison, d'où venait-elle ? Enfin, quand même, quand Sartre... le combat Sartre-Camus n'a jamais existé. Sartre a gagné par KO au premier round.
Il n'a même pas tapé lui-même, il a fait donner Janson.
Oui, voilà. Bon, c'était pour. Bon, alors, c'était. Je crois que ce qui était très impressionnant, moi, je suis né en 49. Donc, c'était pour moi des lectures d'adolescence. Mais on lisait ça avec, pas tellement pour le croire sur fond, mais avec une espèce de dévotion pour la figure incarnant le magistère intellectuel. Quand De Gaulle dit, au moment où je ne sais trop qui...
C'est l'appel des 121, le manifeste des 121.
Au maniement du manifeste des 121, on lui propose d'arrêter tout le cortège, et, dont Sartre, et De Gaulle dit, on n'embastille pas Voltaire. Et... C'est vrai aussi, c'est-à-dire Sartre, à l'époque, c'était un rayonnement un peu à la Voltaire. C'était peut-être une époque où il y avait une légitimité des maîtres penseurs.
Vous dites, nul n'aurait pu résister à monter sur son bidon.
Non, mais il a fait un nombre de trucs ridicules.
Incroyables, ouais, c'est ça.
Attendez, Sartre à l'Odéon, c'était grotesque. Il accepte de se faire insulter par des gosses avinés et incultes, et il leur dit, vous avez raison. Je veux dire, il y a des moments fous chez Sartre. Sartre, sur son tonneau, allant haranguer les pauvres ouvriers de Billancourt qui sortaient du poste de 8 heures... C'était ridicule. Rien. Tout ça passait. Le Sartre de la fin de sa vie, où soudainement il tombe sous l'influence de Béni Lévy, lequel Béni Lévy est en train de le transformer en talmudiste amateur.
Oui,
tout ça, bon. Eh ben, il était là. Moi, j'étais parmi les 15 ou 20 000 personnes à suivre cette dépouille.
On va pas tarder à s'arrêter parce que vous évoquez d'autres figures intellectuelles. C'est vraiment passionnant. Évidemment, Furet, vous en parlez très bien. Vous dites qu'il y avait un côté un peu dandy, qu'il y avait du mal un peu.
C'était un esthète, Furet.
C'est un esthète, c'est ça.
C'était un esthète, par exemple. À chaque fois que je lui disais, mais c'est à toi d'être Aron, de peser dans le débat public, je m'emmerde.
Derrida, vous dites, il avait une certaine propension à signer des pétitions, mais en fait la contingence, vous dites pas comme ça, mais l'ennuyait quoi.
Oui. C'était quelqu'un qui n'avait aucune envie de se préoccuper, fût-ce un quart de seconde, de la réalité telle qu'elle était.
C'est-à-dire qu'il avait tellement déconstruite la réalité qu'elle n'existait plus.
Elle n'existe plus. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience avec Derrida très amusante. Il faut dire que c'était un Jean Popren, grand homme socialiste, très cultivé, avait loué le grand amphi de la Sorbonne, le grand amphi, pour un débat complètement surréaliste entre Derrida et moi. On était aux antipodes d'univers, de la trajectoire, etc. C'était quand même une époque où vous aviez 1000 types qui allaient regarder un débat aussi burlesque. Enfin, les gens avaient quand même... C'était des vibrations intellectuelles, les années 80. Et il m'avait fasciné parce que c'était absolument éblouissant. J'avais vraiment l'impression d'être un ver de terre et complètement vain. Complètement vain. Et, mais je crois que c'était délibéré, ils s'en foutaient. C'est pas grave.
Sur le monde de la presse, vous signez page 151, enfin vous écrivez page 151, pardon, une des plus belles vacheries qui m'a été donnée de lire, c'est à propos d'Edoui Plenel. Vous dites, acteur de sa nomination à la tête du journal et co-responsable de son départ, je reste impressionné par l'énergie pour laquelle nous l'avions choisi et terrifié par les excès pour lesquels nous l'avons renvoyé.
Oui, c'est vrai, c'est pas une vacherie, c'est la vérité. Ce type était, et Marcel Desvernes s'en souvient, un patron de rédaction du Monde incroyable, d'énergie, de vitalité, de capacité de se saisir des choses. Avec un petit problème, c'est que il ne faisait pas la distinction entre un fait non avéré qui le servait et un fait vrai. Donc c'est quelqu'un, Plenel, dont on se dit heureusement qu'il y a l'épaisseur de la démocratie entre lui et vous. Je veux dire, Plenel, dans un système de pouvoir non démocratique, moi il m'envoie en camp de rééducation et vous en demi-camp de rééducation. Non, je veux dire, mais ça n'enlève rien aux qualités. On l'avait nommé avec Jean-Marie Colombani pour ses qualités. Et on l'avait viré pour ses excès.
Dernière question, à la fin de votre ouvrage, c'est l'épilogue. Vous vous projetez un petit peu dans une forme de prospective quand même. Hein. Vous dites l'ascension de la Chine et demain l'émergence de l'Inde suffiront à coup sûr à inverser la grande vague de libéralisation mondiale, repli de l'économie de marché et place plus grande dévolue aux États. Et vous dites dans le dernier paragraphe de votre ouvrage, je ne vais pas spoiler l'ouvrage, mais c'est un beau texte, alors je me permets de le lire. Au fond, il existe une différence de nature entre le frontalier des 40 dernières années, comme je l'étais, et celui, s'il existe, des 40 prochaines. Un frontalier actuel a un côté Fabrice à Waterloo, perdu dans un monde émietté et en pleine déconstruction. Son successeur n'aura d'autre choix que d'être un combattant enrégimenté dans un des deux camps. Puisse-t-il choisir le bon ?
Non, mais ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que on est sorti du communisme en tombant dans une espèce d'irénisme dont témoigne enfin cette phrase devenue un poncif qui est l'histoire de la fin de l'histoire. C'était un peu plus subtil.
Oui, c'est plus subtil. Mais ça dure 11 ans, quoi, jusqu'au 11 septembre 2001, à peu près.
Moi, je crois pas. Je pense que c'est pas le 11 septembre 2001 qui met fin à ça. Le 11 septembre 2001, c'est épouvantable, mais c'est pas Pearl Harbor non plus. Je pense que ce qui met fin à cet irénisme, c'est la violence des tensions internationales. C'est-à-dire qu'au fond, dans toutes ces années-là, et à la limite, 2001 ne change pas, parce que le combat mondial contre le terrorisme, et tout le monde condamne 2001, était un instrument de solidarité entre les États, à la limite. Mais après, on est entré dans un jeu. Enfin, on a eu 10 ans d'un monde géré par l'hyperpuissance américaine. Et de ce point de vue, Clinton était un président exceptionnel parce qu'il assumait l'hyperpuissance, mais il l'assumait avec gentillesse, sans abuser de cette position. Ensuite, Bush a usé de l'hyperpuissance avec maladresse, et Obama est le premier à avoir tiré un trait sur l'hyperpuissance. Je veux dire, le retrait du monde des États-Unis, celui qui le lance, c'est Obama, mais avec la grâce d'un prince que nous admirons. Et après, ce retrait du monde est perçu et poursuivi par ce personnage très intelligent, qui est Trump, mais dévastateur. Mais le retrait du monde des États-Unis, c'est un élément pour nous décisif. Quand vous pensez, qui aurait imaginé qu'un jour la chancelière d'Allemagne dirait après un G7 dans un meeting politique le lendemain, ce que j'ai appris hier, c'est que nous Européens, nous ne devons compter que sur nos propres forces. ce qui est contraire à toute l'histoire allemande depuis la naissance de la République fédérale. Donc je pense que l'élément structurant, c'est plus le retrait des États-Unis du monde, à la limite que l'ascension des régimes dictatoriaux. Et ce retrait des États-Unis du monde, il correspond pas seulement à des choix politiques, il correspond à la mutation profonde des États-Unis. Les États-Unis ne sont plus un pays occidental. Les États-Unis sont un pays monde. C'est un pays, en fait, qui est un syncrétisme du monde entier. Et si vous vous demandez ce que seront les États-Unis dans 20 ans, quand les sino-américains, c'est-à-dire les Américains de citoyenneté américaine d'origine chinoise, et les Indo-Américains, c'est-à-dire les Américains de citoyenneté américaine mais d'origine indienne, auront au cœur des élites remplacé les uns les WASP et les autres les Juifs, c'est un autre monde. Je veux dire, le lien avec l'alma mater européen n'existe pas. Et je crois que c'est ça le vrai facteur de déstabilisation profonde du monde, c'est qu'il n'y a plus un point de référence. Il n'y a plus en réalité une boussole avec une aiguille. On pouvait détester les États-Unis, être anti-américain, mais ça participait de la boussole. Des États-Unis absents du monde, ça ouvre un jeu incontrôlé. Et c'est pour ça que, quand on a ça en tête, sauf à être vraiment étrangement outillé sur le plan intellectuel, on ne peut qu'être européen. Je veux dire, on ne peut qu'être européen. Moi, je suis très content que, lors de la visite du président chinois, Macron ait eu la bonne idée de convier Merkel et Juncker. Et il faut que vous sachiez quelque chose que les journaux ne savent pas et n'ont pas écrit, c'est que ça a failli faire capoter la visite. C'est-à-dire que la Chine n'admettait pas l'idée qu'une forme d'Europe unie lui parle. Et que donc les Chinois avaient dit, dans ce cas-là, il n'y aura pas de cette réunion et il n'y aura pas de communiqué. Qui est quand même, pour des gens aussi férus de protocole que les Chinois, pas banal. Bon, ben, c'est l'illustration du fait que face à la Chine et demain à l'Inde, l'Inde sera plus démocratique, ce qui est d'ailleurs un miracle formidable. Mais l'Inde d'1,4 milliard d'habitants sera par définition, quand vous avez 1,4 milliard d'habitants, vous êtes par définition protectionniste, vous êtes par définition nationaliste. Enfin, on est dans un autre univers. Bon, ben, quand vous avez ça devant vous, le reste, c'est des histoires locales à gérer. Enfin, pour moi, le Proche-Orient sera structuré par les pays qui ont 40 siècles.
Merci beaucoup, cher Alain Minc, on peut vous applaudir.